ça a dû représenter un travail considérable pour pister chacune des espèces, parce qu'il y en a quand même un certain nombre.
Oui, alors,
beaucoup de documents.
Oui, alors ça c'est vrai. Bon, ça c'est vrai. C'est un peu notre travail de systématicien. Hein. Bon, et c'est en plus assez notre travail dans un établissement comme le Muséum national d'histoire naturelle. Parce qu'on est là au cœur de l'histoire de l'herpétologie ou de l'histoire de la zoologie. Hein. On est là. Quand on travaille sur les collections du muséum, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a sur les étiquettes de nos flacons du siècle dernier, hein? C'est ces noms-là, en français ou en latin. Et donc, il faut savoir la succession des noms de ces spécimens. Et comment ils l'ont entendu. En plus, pour bien étudier une espèce, il faut savoir exactement où elle a été récoltée. Alors, c'est mis parfois dans le catalogue d'une façon précise ou d'une façon vague. Alors, on refait, on recherche les archives, on refait les itinéraires des voyages. Bon, moi, je l'ai moins fait pour le côté français, mais même, là, pour le côté, par exemple, européen. Mais je l'ai fait pour une autre partie, parce que j'ai fait la même analyse pour les amphibiens de Guyane. Alors, j'ai refait les itinéraires des voyageurs naturalistes ou des scientifiques qui avaient été en Guyane, au Brésil, etc. Bon, ça, c'est notre travail du muséum. Bon. Et je donne un exemple pour l'Europe. Hein. Il y a beaucoup d'espèces qui sont dites du biberon et boris de Saint-Vincent. Et ils ont été décrites, et les types de ces spécimens sont ici. Bon. Eh bien, les noms ont été créés par Bibron et Boris Saint-Vincent, et c'est des spécimens qui ont été récoltés pendant la fameuse expédition de Morée sous Charles X. Hein. Là, j'ai relu tout l'itinéraire du voyage, ils disent qu'ils ont récolté, et puis les spécimens sont ici, et suivant les indications de Boris de Saint-Vincent, Bibron a donné les noms, et donc, ce nom, une histoire. Donc, ça rentre un peu dans notre travail ici. Mais l'origine un peu du travail, c'est... il y a eu un livre qui est sorti par la Société européenne d'herpétologie sur, disons, les noms dans les différentes langues européennes des reptiles et amphibiens d'Europe. Et on m'a demandé de faire la liste des noms français. Alors, j'ai commencé. Et puis la machine s'est enclenchée. Et après, d'ailleurs, pris par ça... avec des collègues d'ici, on a publié donc une liste, parce que c'est en même temps quand même un travail avec des collègues qui sont parfois plus spécialistes d'un groupe, et disons, ils ont fait ces études historiques, et donc j'ai profité aussi de ces études historiques. Quoi. Voilà un peu l'ensemble. Voilà.
Et vous savez s'il y a un travail similaire qui est fait dans d'autres pays, en Europe, en Angleterre ou en
Alors
Espagne,
ça,
par exemple?
Ça, je ne sais pas. Il y a des collègues qui s'intéressent maintenant de plus en plus à l'histoire des disciplines. Il y a même une revue, puis il y a un collègue américain, Lair d'ailleurs, qui a bien travaillé sur l'histoire de l'herpétologie. Hein. Et quand on a eu notre premier congrès mondial d'herpétologie, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, bon, même plus, oui. Il avait fait un panorama comme ça des herpétologistes, hein, avec des notices biographiques très très intéressantes. Et il y a maintenant un peu une revue comme ça de recherche. Je pense qu'ils disons il y a un peu ça, mais si il y a sur l'histoire de leur discipline, il y a il y a des recherches, parce que, à la fois, parce que c'est l'histoire de la systématique, c'est l'histoire des collections, et les Allemands ont sorti un très beau livre sur l'histoire de l'herpétologie allemande, hein, avec des notices biographiques, c'est très précieux. Mais je ne sais pas si les Allemands qui ont eu beaucoup de naturalistes et de scientifiques au début du 19e siècle, hein, en même temps que les Français, hein, les Anglais ont commencé après, quoi. Disons, il y avait quelques individualités, mais ils ont pris plus d'importance après. Je ne sais pas s'ils ont fait ce travail au pas de vue sur les noms en allemand. Les Anglais, n'ont pas fait encore, en tout cas dans ma discipline, dans l'herpétologie. Et puis ils se trouvent confrontés avec les Américains qui sont moins tenants de l'histoire de la langue et inventent des noms à toute vitesse tout le temps. Alors par exemple, il y a une base de données bien faite, hein, par quelqu'un de l'American Museum, sur les amphibiens, hein, une base de données là sur la systématique qui est très très bien faite, il y a le nom anglais. Mais je ne sais pas s'ils ont fait une analyse. Alors il est certain qu'avec les nouvelles espèces, on est obligé de créer le nom, c'est ce que j'ai fait dans plusieurs papiers, ils le font. Mais peut-être pas avec une règle ou un sens de l'histoire aussi fort. Hein. Alors, ils créent des noms, et d'un certain côté, comme c'est dans des bases de données internationales, c'est imité aussitôt. Hein. Parfois, il y a d'autres qui en inventent, ou ils en inventent comme ça. Alors, parfois, plus ou moins contresens. Hein. Enfin, c'est vrai, ça. Alors, oui, ça, je ne sais pas très bien, hein, pour ce qui est des autres langues. Il faudrait, parce que il y a quand même des listes officieuses qui courent dans les conventions internationales. Hein. Et à la Convention de Berne, qui est une convention européenne, j'avais fait parvenir mes articles, quoi. Il y a une liste comme ça officieuse de noms officiels, ou une liste officielle de noms. aussi bien en anglais qu'en français, à la Convention de Washington, il y a une liste comme ça, officieuse. Bon, j'ai été consulté pour la liste française, quoi. Mais ouais, je peux pas tellement en dire plus. Je sais pas où on en est là-dessus.
Ouais. Est-ce que, alors, je sais pas si ma question est pertinente, mais ne pensez-vous pas que ces noms français fassent doublon avec le nom latin? Est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, faire l'économie de ces noms français, à votre avis?
Je ne pense pas qu'ils fassent doublon. Ce sont des doublons des noms latins, mais disons, ils ne peuvent pas remplacer les noms latins. Les noms latins sont des noms internationaux, scientifiques, avec, attention, un code de nomenclature zoologique. Bon, il y a un code équivalent pour les plantes, très strict, très très strict. Hein. Il suit ses règles, et donc c'est une base de la science, de la classification, de la systématique, tout ça. Bon, l'affaire, c'est que, C'est normal qu'il y ait nos noms français dans les, dans les, dans les grandes langues et puis dans les documents administratifs. Hein. Et donc ça, c'est une bonne chose qui a été reprise. En plus, des gens qui ne sont pas scientifiques, donc emploient des termes. Et alors là, on se trouve devant, devant l'emploi des noms courants en français, c'est-à-dire finalement des noms vernaculaires. Hein. Et là, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, et donc il faut aussi une unicité. Par rapport, disons, à des travaux antérieurs, par exemple, parfois dans l'Atlas, je ne mets, à part selon exception, hein, mais dans mon livre, je ne mets que un nom français. Parfois, pour une espèce, il y a plusieurs noms qui courent. Hein. Et ça, une excuse pour qu'il n'y ait pas comme ça qu'on emploie plusieurs noms, puis qu'il y ait après des confusions ou des risques d'erreur, etc. Hein. Donc, si, comme pour le nom scientifique latin, qu'il y ait un seul nom scientifique français qui soit employé. Donc, dans les listes d'ailleurs, dans les listes officielles, il y a un nom. Il y a un nom français. Bon. Et donc, ça... Alors, les ornithologistes, je crois, ils font des listes comme ça. Hein. Alors, l'affaire actuellement, c'est qu'on se retrouve en ce moment dans une époque où, avec la génétique moléculaire, les espèces éclatent, et puis surtout les genres éclatent. Hein. Les gens éclatent et donc des nouveaux genres, alors il y en a pas mal qui arrivent, et donc si on s'en tient et faire des noms, comme ça, et suivre cette classification, de changer les noms de genres. Alors là, il y a quand même l'usage qui joue. Hein. C'est là que les noms scientifiques latins peuvent suivre ces choses-là. Et puis, par exemple, surtout que ça risque encore d'être rebousculé par une autre étude, d'être peut-être un peu plus prudent et moins pressé pour des noms français.
Les noms français, en fait, apportent
une stabilité. Oui, puis alors, qui ont une stabilité. Oui, ils apportent une stabilité. Et puis, bon, les gens qui ne sont pas scientifiques, j'entends, la couleuvre verte et jaune, c'est Coluber viridiflavus, bon... En fait, surtout, elle n'a pas de vert, mais enfin, ça ne fait rien, elle est appelée comme ça, tout le monde comprend ça. La couleuvre verte et jaune, bon, elle passe en ce moment dans le genre hiérophys. Alors, on pourrait l'appeler, alors franciser le nom hiérophys, ça ne sonne pas très très bien, il y a aussi des questions de sonorité hein, en français quand même. Hein. Et donc, hiérophys vert et jaune, peut-être un jour, mais bon, tout le monde, et on garde tous, couleuvre verte et jaune. Même si elle s'appellera hiérophys verte et jaune. Donc, y a des choses comme ça qui vont se maintenir. Et, alors, les collègues ornithologistes, là, en ce moment, se posent des questions, parce que aussi ils ont des changements de genre, et donc, ils veulent changer les noms des gens en français. Ce que vous me dites là, les questions que vous me posez, ça vaudrait le coup peut-être qu'on se réunisse un peu et qu'on discute de ça, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.